Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Une des choses qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est que le sentiment de satisfaction, il peut être immédiat quand on m'appelle pour faire traiteur à un mariage ou pour un événement ou quelque chose comme ça, que tout de suite la personne goûte et que Kiyash Belhem. J'ai cherché un éditeur et sur les milliers que j'ai contactés, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu positivement et on est venu ce recueil de poèmes. J'ai toujours beaucoup apprécié la nourriture de chez nous. Je suis un grand mangeur avant d'être un cuisinier. Et petit à petit, les chiouettes de ma mère et de ma grand-mère qui me manquaient à Paris.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Fadi Alaoui, les fondateurs de Tu connais, son dada entre autres, revisiter la cuisine marocaine traditionnelle et lui apporter un zeste de modernité. Des débuts dans l'univers de la finance et puis un déclic, un switch vers l'entrepreneuriat. Fadi Alaoui, bonjour. Ravi de vous recevoir dans Job Story.
Ravi d'être là, merci beaucoup pour cette invitation.
Tout le plaisir est pour moi. Fadi, alors comme on dit, toute carrière a un début, un point de départ. Ramenez-nous au vôtre, comment est-ce que tout a commencé sur le plan professionnel ?
Il a commencé de manière assez classique. J'ai eu une licence, j'ai d'abord fait des études en Suisse, puis j'ai travaillé un petit peu en Asie avant de revenir à Paris faire mon master. J'ai travaillé en banque d'affaires et dans des fonds d'investissement. Et petit à petit, le déclic, tu sais, j'ai toujours beaucoup apprécié la nourriture de chez nous. Je suis un grand mangeur avant d'être un cuisinier. Et petit à petit, les chiouettes de ma mère et de ma grand-mère qui me manquaient à Paris, je trouvais que l'offre de nourriture marocaine est un petit peu pauvre et difficile à retrouver. Et du coup, quel est le meilleur moyen de satisfaire tes envies culinaires ? C'était de les reproduire par moi-même. Donc, beaucoup de temps au téléphone avec les gens de ma famille qui savaient cuisiner pour avoir les tips.
Les petites recettes.
Exactement, les petits secrets. Mais tu sais d'ailleurs, un grand problème qu'on a avec ça, quand tu appelles ta maman pour des recettes, etc., le Aïnik Mizanik.
Ah oui, ça c'est ma phobie. C'est vrai. Mais après, le Aïnik Mizanik, justement, ça change d'une personne à une autre. C'est pas universel.
Je sais pas, moi, tu sais, parfois, ça m'énerve tellement. Je dis, en fait, juste dis-moi que tu veux pas me donner la recette, que c'est en secret ou la shihaja, et juste tu veux pas partager. Parce que quand même, il y a un moment, à Aïnik Mizanik, je suis d'accord, qu'il faut sentir les éléments et les différents ingrédients que tu utilises. Mais cela dit, il y a quand même une certaine base.
Ouais, mais je pense que vraiment, c'est des fois, c'est lead. C'est, je ne vais pas dire en freestyle dans le sens négatif de la chose, mais c'est vraiment chacun sa petite touche. Et c'est vraiment à Aïnik Mizanik qu'au final, quand tu vois vraiment, c'est surtout vrai. Nos mamans, je crois que vraiment, c'est à Aïnik Mizanik. C'est avec le temps, elles apprennent un petit peu à doser au fur et à mesure. Il n'y a pas de doseur et tout, ça n'existe pas. Elles font ça voilà, en freestyle, mais un bon freestyle.
Non, je suis d'accord. Surtout que d'un feu à un autre, d'un ustensile à un autre, c'est jamais la même chose. Donc il faut toujours le changer, je suis d'accord.
Et l'univers de la finance, tu es resté combien de temps avant de switcher ?
Je suis resté 7-8 ans.
D'accord, quand même.
7-8 ans à travailler et voilà, en fait, ça s'est fait petit à petit, si tu veux. J'ai d'abord été un très grand mangeur. J'ai toujours beaucoup aimé la street food. Et puis, petit à petit, je me suis développé sur des projets un petit peu plus gastronomiques. Mais tu connais, c'est vraiment parti qu'en rentrant à Rabat. Justement, tu sais, donc moi, j'ai grandi toute ma vie à Rabat. Je suis parti à 18 ans pour faire mes études. Du coup, j'adorais toujours, tu vois, les petites malhalabettes. Les petits moulchouaya, etc., pour goûter un petit peu toutes ces choses qu'on avait. Et en rentrant un été, tu vois, je me suis vraiment rendu compte que tout ça avait tendance à disparaître, c'était remplacé par des tacos.
Ouais.
Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de tacos à Rabat. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, un tacos ? C'est quelque chose à la base du Mexique, et puis c'est des gens à Grenoble qui l'ont remixé en mettant du fromage. Enfin, c'est juste un peu le temple de la malbouffe et du vite fait. Alors que nous, avant, on faisait du vite fait. Mais très bon, parce que pour moi, street food, c'est pas fast food. C'est deux choses qui sont différentes. Et nous, au Maroc, on recèle d'une pluralité énorme de projets. Tu as le marhoda dans la rue, tu as des sandwichs spéciaux, sans rentrer dans le tonneau le horror et les bocadillos du Nord, etc. Tu vois.
Et les pois chiches aussi, les petits bols de pois chiches, de foul, etc. Ça aussi, c'est, voilà, c'est street food, mais c'est pas, voilà, c'est pas des frites, quoi. C'est bon. Il y a du cumin
exactement.
Et tout.
C'est les escargots.
Les escargots aussi, ouais.
Tu vois, toutes ces belles choses-là qui tendent un petit peu à disparaître. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi la première chose que j'ai fait, c'est essayer de reproduire un sandwich marocain. Donc, je me suis intéressé à la boulangerie, j'ai fait du pain moi-même. Donc, c'est un pain qui reprend un peu le bout-bout, mais différent parce qu'il y a la mie dedans. Donc, ce côté croustillant et très réconfortant du bout-bout, mais avec une mie fondante à l'intérieur. J'ai fait une touktouka revisitée pour qu'elle soit croustillante. Ou djajm hammar, tu vois, mais façon sandwich pour qu'il soit tendre. Donc c'est du poulet que je fais mariner pendant 24 heures et qui cuit à basse température pendant 6 heures pour qu'en fait le résultat soit qu'il soit si tendre que je puisse le découper à la cuillère.
En tout cas, ça donne
Zitoun, cheddar raffiné, tu mets ça dans la machine à panini et du coup, mes amis ont appelé ça le kiff. Et ça a gardé son nom et donc c'est le premier sandwich que j'ai lancé.
Excellent, première signature finalement.
Exactement, et ça s'est fait vraiment, tu vois, genre l'entrepreneuriat 0.0, c'est-à-dire que c'était moi avec mon vélo et mon sac à dos qui allait livrer mes amis, j'ai lancé un Instagram, petit à petit j'ai développé la carte, j'ai commencé à faire davantage de revisites, donc notamment les tagines façon gyoza par exemple, ou les tagines en arancini, je me suis intéressé à d'autres régions du Maroc, et ça a évolué comme ça petit à petit, jusqu'à faire des événements et ouvrir des cuisines sur Paris.
Donc finalement, l'entrepreneuriat, c'est venu au fur et à mesure du temps. Ça n'a pas toujours été une évidence ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais en toi depuis longtemps et que voilà, le moment est venu et tu t'es lancé? Ou est-ce que c'est venu juste comme ça?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment généraliser l'entrepreneur parce que je pense que chaque entrepreneur a sa propre histoire. Et moi, dans le fond, tu vois, ce n'était pas nécessairement une vocation de « oui, je veux être un self-made man » ou je ne sais pas quoi. C'est juste que c'est parti d'un constat très simple. J'adore manger, j'adore la cuisine marocaine. Elle est mal représentée à Paris. J'ai commencé à la faire, donc premièrement avec des plats classiques. Et puis, petit à petit, je me dis, cette cuisine, elle est tellement riche, elle m'intrigue tellement. Et elle est représentative de tellement de belles valeurs que nous avons au Maroc. La famille, le partage, la cuisine de ta maman, de ta grand-mère. Parce que pour moi, les plus belles ambassadrices de la cuisine marocaine, ce sont les femmes. C'est une tradition qui se transmet oralement chez les femmes. Les chefs marocains sont moins présents et ceux dont on parle à l'international sont plus des femmes. Et bravo à toutes ces femmes-là qui font tenir ces valeurs via ces belles recettes. Et donc voilà, mon petit à petit, je me suis dit que je voulais revisiter, voir un peu ces plats, les remettre un petit peu... j'ai pas envie de les remettre au goût du jour parce qu'ils sont très bien tels qu'ils sont. Et je suis pas en train de, par mes revisites, de les dégrader ou de les négliger, mais juste pouvoir mettre à profit, moi, mon expérience de jeune et de tout ce que j'ai pu voir à travers le monde, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, et d'essayer de mélanger ces choses-là. Par exemple, hier, tu vois, j'ai fait de l'indien un petit peu revisité avec du marocain, parce que si tu compares un curry indien avec nous, comment on fait de tajine, c'est très similaire. Taouma, ils utilisent le karkoum ou le skinjbir, ils font mijoter avec beaucoup de moutons et beaucoup de poulet. C'est très similaire quand tu regardes aussi avec les salades qui sont en Asie du Sud-Est. Avec nous, les shlatam shouya, etc., que nous faisons, c'est aussi très similaire.
Il y a beaucoup de points en commun.
Donc, exactement. Donc, je pense qu'il y a aussi une certaine diplomatie culinaire qui peut en découdre. Avec cette curiosité, tu te rends compte qu'on a un grand point de commun et la cuisine, ça peut nous rapprocher aussi.
C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que ça a été, tu connais, ça a été lancé en parallèle avec ta carrière dans l'univers de la finance ou est-ce qu'il y a eu un stop et puis un passage à l'entrepreneuriat et fondé justement Tu Connais, ou est-ce que ça s'est fait en parallèle?
Alors, ça s'est fait en plusieurs temps, si tu veux. D'abord, j'ai eu une autre expérience professionnelle, d'entrepreneuriat, où là, c'était plus par rapport à une fintech. Donc, j'ai lancé une fintech dans le domaine du social. Donc, j'étais dessus pendant un an. On l'a vendue au bout d'un an avec mon associé. Et entre-temps, il y a des chasseurs de tête qui sont revenus me voir pour me proposer de travailler. J'ai retravaillé dans un fonds et... en parallèle, il y a eu cette chose avec Tu Connais, donc je me suis dit non, écoute, quand tu fais un projet, il faut y mettre ton cœur, ta sueur et ton âme, et je pouvais pas faire ça en parallèle, et du coup non, ça, Tu Connais, ça a été une aventure à plein temps depuis 2022.
Et les difficultés, est-ce qu'il y en a eu? Au début surtout, je pense, au tout début.
Il y en a toujours encore aujourd'hui, je te rassure.
Ah oui, sinon ça serait pas fun, hein.
Les premières difficultés, ça. Donc moi, d'un point de vue opérationnel, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que la chance aussi que tu as, c'est que quand tu bosses en finance, j'ai toujours été habitué à faire des énormes amplitudes horaires et avoir beaucoup, beaucoup de stress. Ouais. Je dis souvent, tu vois, genre entre l'armée, une cuisine, une salle de marché, c'est un peu la même chose, tu vois, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu as beaucoup, beaucoup de stress. Donc ça, ça a été, c'est un apprentissage qui m'a été extrêmement bénéfique de ce point de vue-là. Ça a surtout été des contraintes financières parce que tu sais, la restauration à la cuisine, c'est quand même quelque chose qui est très intensif en capitaux. Le matériel de cuisine coûte très cher. À Paris, l'immobilier, je t'en parle pas, comme partout d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu dois acheter des pas de porte, énormément de charges, les employés, etc. Donc ça a été comme ça. Du coup, donc moi, j'ai toujours eu besoin de financement externe dans ce projet. Mm-hmm. Et qui dit financement externe, bah, tu as recours à d'autres personnes, des investisseurs ou des associés, des choses comme ça. Et souvent, ça a été un peu difficile, tu vois. On te promet la lune et puis les investisseurs arrêtent de te répondre ou tu te mets pas d'accord sur les bonnes choses. Donc, c'est surtout la recherche de financement qui est compliquée.
Mais après, même si c'est difficile, je suppose, quand on aime vraiment ce qu'on fait, qu'on lance un projet avec amour et passion, bah, ça ne nous arrête pas, en fait. Parce qu'on se dit, voilà, ça, c'est juste le début, ça va aller, etc. Donc, on se donne encore plus. On baisse pas les bras finalement, parce qu'on se rappelle pourquoi on a commencé.
Tu as tout à fait raison. En plus, moi, j'ai de la chance, c'est que ma passion, elle a du goût. C'est-à-dire que tu as, c'est l'une des choses qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est que le sentiment de satisfaction, il peut être immédiat quand on m'appelle pour faire traiteur à un mariage ou pour un événement ou quelque chose comme ça, et que tout de suite la personne goûte et que kiyajbel hal.
Ça n'a pas de prix.
C'est tout de suite. C'est pas comme quand tu es en IT et tu bosses sur un projet pendant 2 ans pour une grosse entreprise. Tu n'as pas de fast reward, tu vois.
C'est vrai. Et pourquoi tu connais le nom?
Donc ça s'appelait Tu connais parce que justement, je fais beaucoup de plats que tu connais, mais que tu n'as jamais vu de cette manière-là. Par exemple, pour te parler de l'un de mes plats signatures, tu vois, c'est le tagine de Djaj Mohammad. Revisitant en gyoza. Donc les gyoza, tu sais, ce sont ces petites ravioles asiatiques. Et moi, j'aimais beaucoup en fait l'idée de les revisiter comme ça parce que moi, ce qui me plaît le plus dans un tagine, c'est l'acte de hummus. Tu vois, je prends mon petit bout de pain, quatre roues de chadl marqa, chadl ham, chadl légumes et un peu de sauce et tout, et tu manges. Et du coup, le fait de pouvoir mettre ça dans une raviole, ça englobe un petit peu toutes ces saveurs. Mm-hmm. C'est une petite bouchée qui est croustillante. Donc d'abord, je la fais frire, ensuite elle cuit à l'étouffée à la vapeur. Je fais une émulsion de citron confit, tu vois, pour apporter énormément de légèreté, une petite crème de coriandre et une réduction également de pickle d'oignons rouges.
Excellent.
Et tout ça, en fait, tu vois, même dans la manière dont je le représente dans l'assiette, je veux qu'il y ait une histoire à raconter. C'est-à-dire que je roule certains gyoza comme des fleurs et d'autres comme des papillons pour que sur la couleur, etc., ça te donne vraiment un petit champ vert avec des papillons qui vont butiner la rose.
Tu as aussi écrit un recueil de poèmes dans un tout autre registre, La cage aux rêves, une autre facette de ta carrière. Pourquoi en avoir ressenti le besoin mettre des mots, justement, sur papier? Voilà, parle-nous un petit peu de cette aventure ou de ce chapitre.
Écoute, moi, j'ai toujours été très littéraire. C'est assez drôle parce que, j'ai bossé toute ma vie en finance et j'ai pas eu grand chose à faire avec les mots. Mais j'ai toujours beaucoup aimé écrire. J'ai toujours beaucoup aimé lire. Et petit à petit, sont venus des mots que j'ai articulés sur page, tu sais, de mon téléphone, dans les notes. Et j'ai commencé à les partager un petit peu sur mon Instagram. Et j'avais de plus en plus de gens qui me disaient « c'est beau, il faut, enfin, je peux m'identifier à ce que tu dis, ces mots me plaisent ». Et j'ai cherché un éditeur et sur les milliers que j'ai contactés, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu positivement et on est venu ce recueil de poèmes.
Excellent. Et il y aura autre chose ?
Eh bien écoute, tu es la première personne à qui je le dis, mais ouais, là je travaille à l'écriture d'un roman.
D'accord, excellent. Excellent. C'est prévu pour quand à peu près ?
Eh bien, écoute, j'espère avant la fin de l'année, Inch'Allah.
Inch'Allah. Et Fadi, sur une note un peu plus perso, on dit généralement qu'on est en quelque sorte le fruit de notre entourage. Dans ce sens, est-ce que tu as été d'une façon ou d'une autre impacté par ta famille, ton entourage, etc.?
Bah absolument. Tu sais, comme je t'ai dit, pour moi, la cuisine marocaine, c'est l'un des plus beaux ambassadeurs des valeurs de notre pays. Quand on parle de cuisine marocaine, on parle de partage, on parle d'accueil, on parle d'amour, on parle de famille. Et je trouve aussi qu'on parle d'élégance et de sophistication. Parce que quand même, quand tu vois la manière dont dans n'importe quel tagine fait ou n'importe laquelle de nos salades, où tu vois les belles tables marocaines que nous avons, l'art de se laver les mains avant,
ouais.
C'est quand même quelque chose de très beau. Et justement, ces deux dernières choses, élégance et sophistication, sont quelque chose qui manque énormément dans les restaurants marocains en France, je trouve.
Mmh.
Moi, il y a un truc qui me révolte, c'est quand on parle du couscous merguez. Mmh. Tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais en France, hein, le couscous, il est au merguez, par exemple. Mmh. J'étais en mode, mais genre, ça n'a pas trop de sens. Et pour en revenir à ta question, oui, donc forcément, qui dit famille, moi, on mange beaucoup chez moi. Ma mère cuisine très bien, ma grand-mère Larhama aussi, celle qui nous a transmis ça, même mes oncles, tu vois, les frères de ma mère cuisinent énormément. Donc voilà, moi, mes plus beaux souvenirs d'enfance, en famille, il y a toujours un plat qui y est associé.
Mmh.
Et justement, quand je suis parti vivre à l'étranger tout seul, étudiant, tu sais, tu es dans ton tout petit studio,
ouais.
Il fait froid, il pleut, les gens font la tronche dans le métro, une belle manière de pouvoir te redonner le sourire, c'est avec une petite chiouette, tu vois, que ce soit ne serait-ce qu'une petite kfita, comme ce que faisait ta maman, ou un tagine, ne serait-ce qu'une salade. Moi, c'est comme ça que je trouvais mon bonheur.
Bah c'est réconfortant. C'est vrai que notre nourriture ou l'art culinaire marocain est très réconfortant. Et même les odeurs, des fois on sent une odeur et ça nous rappelle un moment carrément, un instant. Une épice
vraiment,
et tout, c'est vraiment, voilà, c'est ça la magie de la gastronomie marocaine. Fadi, après ce petit récap, court récap, si tu devais partager avec nous ton plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi? Le premier qui te traverse l'esprit?
J'en ai un qui était très émouvant.
Mmh.
Donc l'année dernière, j'ai eu la chance de travailler pendant un mois dans un restaurant en fait qui invite des chefs en résidence.
Mmh.
Donc où tu devais concevoir un menu en 5 plats sur un thème. Et moi, mon thème était le Maroc en fleurs. Donc j'ai fait un menu en 5 assiettes de plats marocains revisités et tous en forme de fleurs.
Mmh.
Donc revisités sur le thème de la rose particulièrement. Et il y a donc chaque soir, chaque personne venait et donc choisissait le menu du chef. Il y a une personne exprès, donc qui venait d'un pays lointain,
mm-hmm.
et qui me dit que ce sont ses amis qui lui ont offert son voyage à Paris pour venir goûter ma cuisine, pour fêter le fait qu'il venait d'être en rémission de son cancer.
Mm.
Et quand t'as une personne qui te dit ça, qui a pris l'avion pendant 4-5 heures pour venir goûter tes plats et que c'était son cadeau de ses amis proches, parce qu'elle est passée par cette épreuve tellement, tellement difficile et qu'elle te dit que voilà, c'est pour goûter tes plats, j'en ai eu la larme à l'œil et j'étais extrêmement...
J'imagine, ouais.
J'en étais extrêmement ému. Et même là, en parlant, ça remonte parce que c'est fort. Et tu te dis, bah voilà, encore une fois, tout ce que je te dis depuis le début, que la cuisine, c'est véhicule de tellement de belles choses et d'émotions et de sensations. C'est pas que le goût et le bon moment et rigoler avec tes copains au restaurant, tu vois, c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Et ça, je trouve que c'est l'un des plus bels exemples de réussite professionnelle que j'ai pu te donner, quoi, que cette personne soit venue et surtout qu'elle soit satisfaite, parce que tu dis, la personne, elle fait tout ça et à la fin, elle te dit, bon, c'était bof.
Ouais, ça aurait fait l'effet inverse. Là, ça aurait pas été cool. Effectivement, Fadi, on a commencé notre petite discussion par un flashback. Cette fois, si je te demandais, c'est quoi ton next step, un objectif que tu souhaiterais atteindre ou un rêve à concrétiser, ça serait quoi?
Eh ben, écoute, ouvrir mon propre restaurant.
Mmh.
Vraiment, parce que donc là, ce que je propose à Paris, c'est plus sur de l'emporter et du traiteur événementiel.
Mmh.
Et donc là, vraiment, le prochain step, j'espère avoir mon propre lieu. Et j'ai aussi vraiment l'envie de développer ça aussi au Maroc, en commençant par Rabat, donc qui est la ville où je suis né et qui est ma ville de cœur.
Inch'Allah, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Fadi Alaoui. Cette fois, si tu devais partager avec celles et ceux qui nous écoutent actuellement un petit conseil pour une aventure, on va dire, entrepreneuriale plus ou moins réussie, ça serait quoi?
Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur des conseils, mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut, il faut une part de folie ou de naïveté quand tu te mets dans l'entrepreneuriat, parce que c'est dur. Tu vois, tu te manges beaucoup, beaucoup de non. Tu as très peu de succès, de petits succès qui sont quantifiables, entre guillemets, quand tu te lances. Tu as énormément de frais. Ça ne se passe jamais exactement comme tu veux. Donc, il faut pas avoir les reins solides, mais vraiment genre avoir la tête dans les nuages. Te dire que ce que tu fais va marcher. Croire en toi, croire en tes rêves, bien t'entourer de gens qui veulent vraiment ton bien, parce que je te rends compte aussi que dans les moments down ou dans les moments très hauts, les gens qui sont autour de toi sont pas forcément toujours les mêmes. Et au contraire, tu peux avoir beaucoup de déceptions quand tu réussis ou quand tu perds. Mais voilà, bien t'entourer, avoir un petit peu de naïveté, croire en tes rêves et de la rigueur, et ça va marcher. Le problème d'entrepreneur, c'est que, et tu le vois, d'ailleurs, sur Instagram, il y a beaucoup ces pages de mèmes, etc., qui te disent que le CEO de telle boîte a fait fortune qu'au bout de sa 6e expérience, etc. C'est normal. Ouais. L'échec est normal et je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Tu as beaucoup de dirigeants qui viennent et qui disent « Oui, moi, la rigueur, j'ai réussi. » Non, non. Il y a beaucoup d'échecs avant de réussir. Et il faut savoir les prendre avec la parcimonie qu'il faut.
Ben voilà, c'est sur ce très beau conseil, Fadi Alaoui, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. C'était un plaisir de te recevoir dans Job Story. Puis je te souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être ici. À très bientôt. Et vraiment, il faut que tu passes goûter, marhaba bik.
Avec plaisir, Fadi, j'y manquerai pas. Merci, ciao, ciao. À bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.